Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mardi 10 mai avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence d'abord par une cyberattaque.
Une cyberattaque russe contre des satellites occidentaux. Accusation publique portée pour la première fois par le chef de la diplomatie européenne. Cette attaque a eu lieu au premier jour de la guerre en Ukraine. Elle aurait impacté lourdement les réseaux en Ukraine, mais aussi dans plusieurs pays de l'Union. Les détails dans un instant. 20 femmes qui témoignent ensemble et face caméra contre PPDA, une première qui sera visible ce soir sur le site de Mediapart. Récit à suivre de cette nouvelle émission accablante pour l'ex-présentateur vedette. À suivre aussi, opération Portes Ouvertes dans 450 EHPAD privés. Des migrants qui assignent la mairie de Grande-Synthe dans le Nord pour expulsion illégale. Des pompiers qui font de la prévention en plein épisode de chaleur. Bientôt une Ligue des Champions à 36 au lieu de 32. Et puis une mini-série historique, retour sur la FEC, l'affaire Malek Oussekine, à voir à partir de demain sur Disney+.
À 18h15, un jour dans le monde, la COP, vous savez ce que c'est, on en parle suffisamment. Savez-vous qu'il y a une COP 15 en ce moment à Abidjan, une COP qui existe depuis 15 éditions, lutte contre la désertification, la dégradation des terres, la déforestation. On parlera également de cette grande muraille verte qui est restée, qui reste plus ou moins l'état de projet au Sahel avec nos deux invités. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne, dire que les prix grimpent est un euphémisme. L'énergie, la farine, le café, l'huile, les tomates, vous ne le découvrez pas, sauf que faire cesser cette hausse ne se décrète pas. Vous avez entendu que dans la bouche des politiques, il y a bloquer les prix, bousculer la TVA, faire des chèques ponctuels aux ménages. Quelle solution est la plus adaptée? Quelles sont les fausses bonnes idées? Faut-il jouer sur les salaires? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand la guerre en Ukraine se joue aussi au-dessus de nos têtes.
À plusieurs centaines de kilomètres, en effet, au-dessus de nous, l'Europe accuse la Russie d'avoir mené une cyberattaque contre un réseau de satellites une heure avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, afin de mieux préparer son assaut. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Correspondante à Bruxelles. C'est la première fois que l'Union européenne met en cause ouvertement, directement Moscou sur ce terrain-là.
Oui, cette cyberattaque visait un réseau de satellites civils baptisé Kaasat, exploité par une entreprise américaine, et elle a coupé une heure effectivement avant le début de la guerre l'accès Internet à des milliers d'internautes, à des entreprises privées, à des services publics en Ukraine, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe. En France, elle a mis hors service par exemple les modems d'abonnés à Nordnet, une filiale d'Orange. En Allemagne, ce sont quelques 6000 éoliennes dont le fonctionnement a été impacté. Jusqu'à présent, les Européens disaient que cette attaque, qui a sans doute facilité l'invasion, provenait du territoire russe. Le ton a changé. Écoutez le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.
Pour la première fois, au niveau de l'Union européenne, nous attribuons cette attaque à un acteur étatique, à la Fédération de Russie. C'est une chose d'attribuer une attaque comme provenant du territoire russe, c'en est une autre de clairement l'attribuer au gouvernement russe.
Nous envisageons de nouvelles mesures pour prévenir, décourager ces comportements malveillants, a-t-il ajouté. Dans leur communiqué, les Européens estiment que la Russie est irresponsable et la met en garde contre des cyberattaques de ce type qui pourraient, je cite, mettre en péril la sécurité des citoyens européens. Au début de cette guerre, les experts redoutaient qu'elle ne se multiplie, mais à ce stade, ces cyberattaques sont plutôt limitées, à la fois en termes d'impact et de portée géographique.
Angélique Boin, merci, en direct de Bruxelles. Au-delà des cyberattaques dans l'espace, l'armée russe continue son offensive au sol, en particulier dans le Donbass. Mais il semblerait que Vladimir Poutine n'ait pas l'intention de s'arrêter là. C'est en tout cas l'avis de la chef des renseignements américains, Avril Haines, qui a affirmé aujourd'hui devant le Congrès que le chef du Kremlin voulait aussi porter le conflit en Transnistrie, cette enclave séparatiste pro-russe à la frontière avec la Moldavie. Le président russe, toujours selon la chef des renseignements outre-Atlantique, se préparait à un long conflit Il compte sur l'essoufflement du soutien occidental à l'Ukraine. Il devrait probablement imposer la loi martiale dans son pays. Et enfin, concernant l'arme nucléaire, Poutine ne l'utilisera que s'il perçoit une menace existentielle pour l'État ou le régime russe. Le soutien à l'Ukraine qui, pour le moment, ne semble pas faiblir, surtout aux États-Unis, c'est une enveloppe faramineuse de 40 milliards de dollars, 7 milliards de plus que prévu, que le Congrès s'apprête à voter. En bref, encore à l'étranger, le Sri Lanka qui s'enfonce dans la violence après les 5 morts d'hier dans des manifestations anti-gouvernementales. Le ministère de la Défense a ordonné de tirer à vue sur les personnes impliquées dans des pillages ou des violences. Les autorités ont déployé des dizaines de milliers de militaires dans la capitale. Un patron de la police a dû être hospitalisé aujourd'hui après avoir été attaqué par la foule à Colombo.
En France, une nouvelle émission au choc dans l'affaire Patrick Poivre d'Arvor.
Après complément d'enquête de France 2, c'est au tour de Mediapart de donner la parole aux victimes présumées de l'ancien présentateur vedette de TF1. Elles se prénomment Hélène, Stéphanie, Camille, Muriel ou Charlotte, 20 femmes qui ont toutes déposé auprès des enquêteurs pour viol, agression sexuelle, harcèlement. Mais pour la première fois, elles témoignent à visage découvert lors d'une émission qui sera diffusée ce soir à 19h. Bonsoir Juliette Jay.
Bonsoir.
Vous avez vu cette émission et certaines n'avaient encore jamais parlé auparavant.
Oui, ce qui frappe directement, c'est cette photo, 18 femmes sur un même plateau, deux à distance. Certaines se tiennent les mains et tour à tour, elles se présentent. Les deux que vous allez entendre parlent pour la première fois.
Je m'appelle Marie-Laure Eude de Lattre. J'ai été violée par monsieur Patrick Poivre d'Arvor en 1985. J'avais 23 ans et j'ai mis 36 ans à porter plainte.
Je m'appelle Margot Coquille-Lays, je suis enseignante. Être ici aujourd'hui à visage découvert, c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens mon témoignage qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans.
Toutes les deux ne sont pas journalistes, c'est l'une des forces de cette émission. Elles décrivent en revanche le même mode opératoire. Les deux invitées très jeunes à le rencontrer, mais pas dans son bureau de TF1, dans des chambres d'hôtel à Cannes et à Sète.
Il a fermé la porte à clé. Et après, je l'ai vu tout nu comme un verre. Et j'ai pas bougé. Je me souviens juste que j'étais allongée, qu'il m'a enlevé mon pantalon et ma culotte, qu'il est rentré. Moi, j'étais collée comme ça. C'est bout de viande, j'en ai besoin, je le prends.
PPDA conteste par l'intermédiaire de son avocat toutes ces accusations de violence, sexuelle ou non. Il a porté plainte contre 16 de ces femmes pour dénonciation calomnieuse il y a 15 jours. C'est pour ça qu'elles parlent aujourd'hui à Mediapart ensemble.
Là, il y a une espèce d'inversion de culpabilité. C'est lui la victime. Nous, on est plus de 20 peut-être. Mais même s'il y en avait qu'une, en fait, il faut arrêter. Il faut la croire, quoi.
Deux femmes restent de dos, anonymes. L'une dit avoir subi des pressions du clan PPDA pour la faire taire.
Juliette Jay, cette émission est à voir donc ce soir dès 19h sur le site de Mediapart. Le ministère public a requis le renvoi d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des différends. La décision définitive revient au magistrat de la commission d'instruction. Les EHPAD jouent la transparence, enfin une partie d'entre eux seulement, après avoir été pris dans la tourmente du scandale Orpea. Le syndicat des EHPAD privés, le Sinerpa, lance une opération portes ouvertes afin d'ouvrir les établissements à tous les Français qu'ils souhaitent. 450 EHPAD sur 1900 adhérents au syndicat ont accepté de jouer le jeu. Écoutez Florence Arnay-Maumet, déléguée générale du Sinerpa.
Nous souhaitons qu'il soit réalisé des visites guidées pour aller voir des locaux qu'on voit moins, la cuisine, la lingerie, pour expliquer la façon de vivre au quotidien. Cette opération-là, nous la souhaitons vraiment transparente pour acquérir vraiment de la visibilité et de la lisibilité. Les Français en ont besoin. Ils en avaient besoin déjà après la crise Covid. Ils en ont besoin encore plus aujourd'hui. Et je zoome tout particulièrement sur les familles qui nous font aujourd'hui confiance et qui ont un grand besoin de réassurance.
Florence Arnay-Maumet avec Anne Orenstein. Une dernière séance de team building et un discours du chef avant de partir en campagne pour les législatives. Plus de 500 candidats d'En Marche sont réunis toute la journée au doc d'Aubervilliers, atelier formation au menu et prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir pour clôturer la journée.
Et puis voilà une polémique qui remonte à l'automne dernier dans le Nord.
Des camps de migrants de Grande-Synthe évacués violemment par les forces de l'ordre, avec une entreprise privée de sécurité, tentes lacérées, sacs jetés à la poubelle. Plus de 6 mois après, 6 migrants kurdes iraniens ont assigné la commune de Grande-Synthe devant la justice. Leurs avocats demandent que leur expulsion soit déclarée illégale. criminels et 1500 euros d'indemnisation pour la destruction de leurs biens. Maître Jérôme Justy, avocat au barreau de Paris.
C'est très rare que des migrants eux-mêmes agissent. On a l'habitude que les associations agissent parce qu'elles peuvent le faire. J'ai eu entre les mains les actes que je conteste et dont je demande la nullité. C'est comme si c'était un cas d'école. J'ai repris mon code et j'ai pointé tous les défauts et les manquements. Le procès-verbal d'expulsion, qui est le procès-verbal qui doit être remis à une personne expulsée, n'a pas été remis aux personnes qui ont été expulsées. Leurs effets personnels, qui ne doivent en aucun cas être détruits. Le code ne prévoit pas de destruction immédiate des objets personnels. Ont été détruits. Ce sont leurs tentes, ce sont leur logis, leur habitat. On a vu qu'il y avait eu des vêtements, des médicaments. Le code nous dit que la literie et les vêtements sont des biens insaisissables.
L'avocat Jérôme Justy avec Diane Sprimon. La décision du tribunal de Dunkerque sera rendue le 12 juillet prochain. Les températures sont encore montées d'un cran. Aujourd'hui, 26 à 31 degrés sur une grande partie du pays. Ambiance estivale, mais aussi risque accru d'incendie. Et pas que dans le sud de la France, ainsi dans le Berry, touché par de graves feux de forêt ces dernières années. Les pompiers font de la sensibilisation auprès des propriétaires de parcelles forestières. Feux de forêt fictifs au programme, c'est le reportage dans l'Indre à Neuillé-les-Bois de Jérôme Collin.
Trois camions citernes feux de forêt arrivent en forêt de Lancôme.
5000 mètres carrés brûlés qui menacent plusieurs dizaines d'hectares.
Sur zone, plusieurs pistes forestières ont été tracées. Elles sont toutes très bien entretenues par le propriétaire privé. Une évidence pour François-Xavier.
La route principale qui coupe un de mes massifs, elle vient d'être réempirée par mes moyens personnels. Je suis très attentif à ce que les bas-côtés soient entretenus, que les arbres sur les bordures soient élagués.
Malheureusement, tout le monde n'a pas ce sens des responsabilités, regrette le commandant Richard Valsecki, des pompiers de l'Indre.
Parfois même, il n'existe pas de piste pour aller au cœur de ces massifs forestiers.
Et pourtant, chaque minute compte face à un feu de forêt, insiste le lieutenant-colonel Stéphane Bourdin.
Il n'y a rien de pire qu'un engin embourbé dès la première action. On a beaucoup d'échanges à faire pour gagner un temps dans la lutte.
Les 800 hectares détruits à Chalais et Lignac en septembre 2019 sont encore dans tous les esprits. Benjamin et Olivier possèdent des terres dans l'Indre.
C'est quelque chose qui nous touche. Quand on aime une forêt, on fait tout pour la protéger et pour la sécuriser.
Et justement, cette formation cet après-midi nous montre comment on peut organiser les chemins pour que les pompiers puissent intervenir en cas de problème. Et c'est très rassurant.
Surtout avec la sécheresse déjà préoccupante et tout le monde est sur le qui-vive avec les fortes chaleurs des prochains jours.
Reportage de Jérôme Collin de France Bleu, Berry. Lui est une sorte de Mbappé scandinave, une star du foot promis un grand avenir à seulement 21 ans. Le géant norvégien Erling Haaland, 1m94, a signé un accord de principe pour rejoindre l'un des clubs européens les plus prestigieux, j'ai nommé Manchester City, Manchester privé de finale, vous le savez, de Ligue des Champions par le Real Madrid. La Ligue des Champions, justement la plus prestigieuse des compétitions européennes, va changer de format. L'UEFA a validé cet après-midi sa nouvelle réforme. En 2024, la Ligue des Champions passera donc de 32 à 36 clubs. Il y aura, Cédric Guillou, beaucoup plus de matchs.
Plus d'équipes qualifiées, plus de matchs. L'UEFA a tout fait avec cette nouvelle formule pour satisfaire les diffuseurs de la Ligue des Champions. Pour la saison 2024-2025, 36 équipes au lieu de 32 aujourd'hui participeront à la première phase de la compétition. Fini les matchs aller-retour, les 36 équipes disputeront un mini-championnat. Chaque club engagé disputera 8 matchs uniques contre 8 adversaires différents, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Les 8 premiers du classement seront qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Les autres équipes, celles classées entre la 9e et la 24e place, s'affronteront lors de barrages aller-retour pour rejoindre à leur tour les huitièmes de finale. Le format actuel reste inchangé pour la suite de la compétition. Une bonne nouvelle pour le football français, les 3 premiers de Ligue 1 seront directement qualifiés contre 2 aujourd'hui. L'UEFA a également acté qu'à part la finale, tous les matchs continueront de se jouer en milieu de semaine.
Cédric Guillou.
Et Sébastien, on termine avec un fait divers qui a profondément marqué la France.
L'affaire Malek Oussekine, cet étudiant frappé à mort par des policiers en 1986 à Paris, lors des manifestations contre la réforme de Vaquet. L'affaire n'avait encore jamais été adaptée à l'écran. Oussekine, mini-série en 4 épisodes, sera en ligne demain matin sur Disney+, réalisé par Antoine Chevrolier, passé par le Bureau des Légendes et Engrenage. Une série Alexandra Akoun qui revient sur ce drame avec justesse et émotion.
Antoine Antoine Chevrolier, le réalisateur, aurait pu en faire un documentaire tant sa série est dense et précise. 2 ans de recherche et d'interview des protagonistes de cette affaire qui reste une blessure dans notre histoire. Le tabassage à mort par la police le 6 décembre 1986 de Malik Oussekine, étudiant français d'origine algérienne de 22 ans, Antoine Chevrolier.
J'ai eu le sentiment que personne s'était penché sur cette histoire, que c'était une page sombre du roman national, qu'on a beaucoup de mal à regarder en face et qu'il était temps pour un devoir de mémoire.
Une histoire que le réalisateur a choisi d'aborder par l'angle de l'intime, la perte de l'enfant et du petit frère.
Qui lui a fait ça? On vous tiendra informé de la suite.
Je veux voir mon frère!
Le cynisme et les manipulations du politique qui tentera d'étouffer cette affaire n'en seront que plus violents.
On épluche tout. Il nous faut une version solide.
Olivier Gourmet en Robert Pendreau, ministre de la Sécurité de l'époque, mais aussi Iyam Abbas, Kadmer Rad, Laurent Stocker, Mouna Soualem. Tout le casting est impeccable pour nous restituer du drame jusqu'au procès. Cette France des années 80 où la jeunesse s'époumonne sur l'Aziza, porte un badge « Touche pas à mon pote », la mort de Malik Oussekine sera un vrai tournant.
Si ça avait été jugé à la juste valeur, une frange de la population se serait sentie peut-être un tout petit peu plus respectée.
On ne peut pas laisser croire à une jeunesse entière que la société est injuste. Il faut réconcilier les citoyens et la police par une décision exemplaire.
Seuls 2 des 3 policiers impliqués seront jugés et condamnés à de la prison avec sursis.
Oussekine sur Disney+, c'est à partir de demain matin. Et puis, dans l'actualité des plateformes, le New York Times croit savoir que Netflix pourrait lancer d'ici la fin de l'année, plutôt que prévu donc, sa nouvelle formule d'abonnement moins cher, mais avec des pubs.
Eh bien, on verra ça, Sébastien Logédie. Merci beaucoup. À demain pour les journaux, mais à tout de suite dans Un jour dans le monde avec l'épilogue de cette cavale entre une gardienne de prison et un détenu dans l'Oklahoma. Un épisode assez tragique, il faut le dire, mais dont on avait déjà parlé ici même. Ce soir, on parle de désertification, de déforestation, de murailles vertes à l'occasion de la COP15, désertification qui se tient à Abidjan, c'est en ce moment. On y vient avec 2 invités dans un tout petit instant et puis le téléphone sonne, c'est en 2e heure. Je vous le remets dans l'oreille, le standard est ouvert. Allez-y, on regarde la hausse des prix ce soir, elle est forte, c'est un fait. Et on essaye de lister ensemble les solutions. Faut-il bloquer les prix artificiellement? Faut-il jouer sur la TVA? Mais pour qui? Faut-il distribuer des chèques aux ménages? Plus de chèques, mais combien de temps? Faut-il jouer sur les salaires, nous voyons ensemble donc ce qui a déjà été proposé, ce que ça induit aussi, et tout ça au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant tout cela.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Elodie Calac, bonsoir. Encore une journée d'été pour demain.
Oui, bonsoir à tous. On a déjà eu 30 degrés à Bordeaux et à Agen cet après-midi, 29 à Toulouse, 28 à Paris, au Mans, à Bourges ou à Clermont-Ferrand. C'est 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Demain, du sud-ouest vers le centre-Val de Loire et les régions de l'Est, il fera souvent 28 à 32 degrés. À Paris, encore 27 degrés attendus. Et sur le nord-ouest, petite baisse avec 18 à 24 degrés.
Et puis ça va avec beaucoup de soleil.
Quasiment partout. Alors ça sera quand même un petit peu encombré sur la Bretagne, sur le Cotentin, avec quelques gouttes possibles et du vent. Un peu de grisaille près de l'océan. Le matin, vite oublié. L'après-midi, sur le sud des Alpes et sur la Corse, il faudra encore s'attendre à une petite averse. On n'oublie pas le vent de sud, jusqu'à 60 km à l'heure en vallée du Rhône, 60 km à l'heure aussi pour le vent d'Autun. Et puis jeudi, on aura une petite baisse des températures avant une nouvelle hausse dès la fin de la semaine.
Voilà, on attend ça. En attendant, Elodie Calac, merci beaucoup. Vous revenez tout à l'heure après 19h.